Donc, permettez-moi tout d'abord donc d'exprimer la joie que je ressens à l'idée de vous faire partager donc le fruit de mes recherches que je mène donc actuellement aux archives départementales de l'Hérault. Donc, j'esquisserai devant vous ce soir un panorama général de la situation des réfugiés espagnols donc dans le département au cours de l'année 39, année donc comme vous le savez donc charnière, année phare. S'il en est, dans la mesure où elle représente à la fois l'épilogue de la guerre civile espagnole et le prologue de la Deuxième Guerre mondiale, annonçant de ce fait le temps des inquiétudes et des incertitudes. Donc, en guise d'introduction, je dirais que si le département de l'Hérault ne fut pas un département d'accueil, ni même un département de première ou de deuxième urgence, il accueillit cependant, donc dès le début de la retirada et après l'ouverture donc du camp d'Agde au mois de mars 1939, un nombre non négligeable de réfugiés espagnols. À la demande du préfet de l'Hérault, donc Antoine Monis, le chef d'escadron Pigné, qui commandait la 16e légion de gendarmerie de l'Hérault, fut chargé en étroite collaboration avec les commissaires centraux, commissaires divisionnaires, commissaires généraux, donc les actuels RG, et les maires de département de dresser des états statistiques des réfugiés espagnols qui étaient transmis donc ensuite au ministère de l'Intérieur. Donc à cette fin, le chef d'escadron donc reprend à son compte le découpage en sections en vigueur donc dans son corps d'armée, donc la 16e légion, qui comprend donc l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère, les Pyrénées-Orientales et le Tarn. Donc à cette époque, le département de l'Hérault était donc subdivisé en deux arrondissements et cinq sections, donc, mais là bien sûr je parle, je tiens à le préciser, donc des sections de gendarmerie. Donc l'arrondissement de Montpellier comprenait trois sections, Montpellier, Sète et Lodève. L'arrondissement de Béziers comprenait quant à lui donc Béziers et Saint-Pons. Pour ce qui est des catégories humaines, le chef d'escadron opère une distinction entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les civils et les militaires, les valides et les malades, retenant donc au final quatre classes de réfugiés. Les miliciens d'une part, donc en premier lieu, les hommes donc non combattants dans un deuxième temps, les femmes et les enfants donc qui formaient donc un seul groupe, et donc finalement les blessés et les valides. Donc si vous voulez, cette documentation administrative conservée aux archives départementales de l'Hérault dans le fond donc de la police des étrangers constitue une source précieuse pour l'historien dans la mesure où elle permet de reconstituer par le menu le nombre, l'implantation géographique et la répartition humaine de cette population réfugiée. Donc, si vous voulez, la courbe générale donc des réfugiés de l'Hérault permet de mettre en évidence un double mouvement de flux et de reflux démographique. Jusqu'en mai 1939, on assiste à une augmentation spectaculaire du nombre des réfugiés, qui passe de 4605 en février à 13391 en mars et à 29741 en mai. Donc cet accroissement est dû à l'ouverture donc au mois de mars du camp d'Agde, qui hébergea des miliciens jusqu'alors internés dans les différents camps des Pyrénées-Orientales, notamment ceux d'Argelès, du Barcarès et de Saint-Cyprien, au même titre que les camps de Brame dans l'Aude, de Vernay-les-Bains et Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, de Sept-Fons dans le Tarn-et-Garonne et de Gurs dans les Basses-Pyrénées, ce camp fonctionna comme un véritable camp de désenclavement conçu, donc je cite donc les termes employés par le général Ménard, donc, conçu pour alléger au maximum les charges du département des Pyrénées-Orientales, l'un des plus touchés par l'exode. Donc, au mois de mai, donc, ce camp d'Agde atteignit son seuil de saturation démographique avec 25 000 miliciens, hein, chiffre en soi considérable, eu égard aux possibilités de logement et aux conditions hygiéniques et sanitaires. Donc, de juin donc, à novembre 1939, on assiste en revanche à une baisse donc continue du nombre des réfugiés qui passe de 20 983 en juillet à 9 131 donc, en septembre et à 6 500 en novembre. À l'origine de ce déclin démographique, il convient de mentionner, donc on en parlait tout à l'heure, donc les décès intervenus dès les décès intervenus dans les camps dès les premiers jours de l'exode, qui frappèrent donc certainement plusieurs centaines d'individus, mais là on n'a pas de on n'a pas de comptabilisé, donc je n'ai rien trouvé donc à ce sujet-là dans les archives. Les rapatriements vers l'Espagne qui s'intensifièrent au printemps et s'accélérèrent au mois de septembre avec la fermeture officielle du camp d'Agde et l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne. Les diverses rémigrations vers l'Amérique latine, donc le Mexique, le Chili et la République dominicaine principalement, ainsi que l'URSS. Les engagements des miliciens du camp d'Agde dans ce que l'on appelait les régiments de marche de volontaires étrangers, les RMVE, et la Légion étrangère. Les réquisitions dans les compagnies de travailleurs étrangers, donc les CTE, les déplacements à l'intérieur du territoire donc français, les contrats de travail, le logement à domicile chez des particuliers, le changement donc de régime juridique des réfugiés dont certains passèrent donc du statut de simple asilé au régime des étrangers de droit commun. Donc, dans un premier temps, donc, j'aborderai, si vous voulez, donc, la section de gendarmerie de Montpellier. Donc, cette section, donc, dirigée par un capitaine Joannet, englobait les trois cantons de la ville de Montpellier, ceux de Lunel, Ganges, Saint-Martin-de-Londres, Les Matelles, Agnan, Castries, Claret et Moguio. Donc, cette section abritait 7,67% donc des réfugiés en mars 1939, à savoir 1040 individus, 2,68% en mai, c'est-à-dire 796 personnes, 3,50% en juillet, donc 1939, donc 733 personnes, et 10,12% donc en septembre 1939, c'est-à-dire 924 personnes. Donc la plupart de ces réfugiés étaient des femmes et des enfants, hébergés donc à domicile ou dans des camps donc d'accueil du département, des blessés et des malades, soignés dans les hôpitaux de la capitale et de la région. Donc je fais donc bien entendu allusion donc pour ce qui est donc de la ville de Montpellier à l'hôpital donc suburbain, donc l'actuel hôpital Saint-Éloi. L'hôpital général, donc plus connu des Montpelliérains, donc sous le nom de hôpital Saint-Charles, et donc l'hôpital auxiliaire Rondelet, donc qui se trouve donc à l'emplacement de l'actuel poste et qui n'existe plus bien sûr de nos jours. Donc le faible poids donc démographique de la section peut s'expliquer par des raisons d'ordre public, idéologique et sanitaire. Les autorités préfectorales essayèrent en effet, donc, par tous les moyens, d'éviter la formation de, je cite, noyaux halogènes dans la capitale du département et encouragèrent la dispersion des réfugiés dans les petites et moyennes communes de façon à éviter les éventuelles réactions de xénophobie de la part de la population autochtone et à faciliter le processus d'intégration sociale des néophytes. Donc, en cela, elle ne faisait que reprendre les directives nationales qui interdisaient donc aux réfugiés l'accès donc à la capitale française et au département de la Seine-et-Oise. Donc, par-delà ces chiffres, il ne faut pas perdre de vue que la ville de Montpellier pratiqua ce que l'on appellerait aujourd'hui une politique d'immigration choisie et sélective, en recevant donc dès le mois de février 1939 la fleur de l'intelligentsia politique, intellectuelle et économique de la République espagnole. Donc, en guise d'exemple, je citerai donc bien sûr l'ex-président de la République espagnole, donc Manuel Azaña, dont une plaque figure devant donc la ville, une des villas qui se trouve à la le long de la près de la caserne, donc le Pic, dont le nom donc de l'ex donc président de la République espagnole Manuel Azaña, de l'ex président de la Généralité de Catalogne donc Luis Companys, du linguiste Pompeu Fabra, donc auteur d'un dictionnaire catalan et donc pour le catalan et les Baléares, et l'historien donc catalan Antoni Rubira i Virgili. Vous voyez donc une immigration donc choisie et sélective qui accueillit donc à Montpellier donc cette fleur de l'intelligentsia de la République espagnole. Donc, en marge de cette élite sociale républicaine, logée chez les particuliers ou dans des hôtels du centre, la ville de Montpellier hébergea donc de façon temporaire des hommes, des femmes et des enfants au camp de triage de Villeaudève, une ancienne savonnerie située dans rue du Pont Juvénal, dont je n'ai pas trouvé l'adresse exacte ni le numéro, mais je sais qu'elle, donc cette savonnerie donc, était sise rue du Pont Juvénal, en attendant leur affectation définitive dans le département ou ailleurs. Ainsi, le 10 février 1939, 800 réfugiés y furent-ils logés, avant d'être transférés le lendemain sur Andaille, Sète et Lodève. En raison du mauvais état donc du local, insuffisamment garanti contre les intempéries et impossible à chauffer en hiver, le camp de Villeaudève ne tarda pas à fermer ses portes. Le 23 février 1939, un communiqué paru dans le journal Le Petit Méridional, donc un quotidien donc républicain de l'Hérault, faisait savoir que la plupart des occupants avaient été dirigés sur Rodez, Millau et Angers, et qu'il ne restait plus au camp que 31 personnes, dont les enfants ou les parents étaient en traitement donc dans les hôpitaux de Montpellier. Donc, à Saint-Bosile-de-Putois, un village de 1350 habitants situé dans le canton de Ganges, un camp financé par la franc-maçonnerie fut installé dès le début du mois de février donc 39 dans les locaux d'une colonie de vacances appartenant aux jeunesses laïques républicaines. Il abritait donc essentiellement des familles d'intellectuels et des membres de professions libérales, originaires pour la plupart du Pays basque, et accueillis jusqu'à donc 235 personnes au mois d'août 1939. Donc je vous cite donc rapidement donc un extrait d'une correspondance échangée entre le commissaire spécial de Montpellier et le préfet, donc une correspondance du 6 février 1939. Donc, le camp de Saint-Bosile-de-Putois est administré par Monsieur Louis Metsch, industriel. Les réfugiés sont logés dans les bâtiments du camp de vacances de la Fédération des jeunesses donc laïques républicaines, et tout le matériel du camp de l'auberge de jeunesse des lutins sévenols a été mis à leur disposition. Tous ces réfugiés ont été envoyés à Saint-Bosile après avoir été rassemblés à Perpignan, Narbonne et Béziers par la Fédération des jeunesses laïques républicaines et vraisemblablement aussi par les loges maçonniques de Perpignan. Donc, pour ce qui est des en catégorie humaine, la section de Montpellier donc se caractérise par le faible pourcentage des hommes non combattants et des miliciens, l'importance des femmes et des enfants, des blessés et des malades, qui représentent jusqu'à donc 67% au mois de mai 1939. Cela n'a rien de bien étonnant, car la capitale de l'Hérault, donc dotée d'une infrastructure hospitalière très performante, joua le rôle d'une ville-hôpital pour maints réfugiés en provenance des Pyrénées-Orientales et des Bouches du Rhône. Le haut pourcentage des blessés et des malades, au cours donc des premiers mois de l'Exode, témoigne de la violence de la guerre civile espagnole et de ses conséquences donc tragiques sur la santé à la fois physique et morale des populations civiles et militaires. Ceci dit, il faut croire que la politique sanitaire donc mise en place par les autorités donc préfectorales fut extrêmement efficace, en jugé par la baisse très rapide du nombre des hospitalisés. Donc 25% au mois de mars, 9% en mai, 3,27% donc en juillet et plus que 2,16% donc en septembre. Donc je passe maintenant rapidement à la section de Sète. Donc la section de Sète, dirigée par le lieutenant Lévesque, comprenait les cantons de Sète, Metz et Frontignan. Elle abritait donc 71,62% donc des réfugiés en mars 1939, donc à savoir 9591 personnes, 89,89% donc en mai 1939, 84,62% en juillet donc 39 et 41,24% en septembre 1939. Donc, le changement de tendance perceptible à partir du mois de septembre est dû à la politique de rééquilibrage menée par le préfet donc Antoine Monis au profit essentiellement de la section de Béziers et accessoirement de celle de Lodève et de Montpellier. Donc contrairement à la section de Montpellier qui abrita donc une minorité disons choisie de réfugiés, la section de Sète dut faire face à un phénomène d'exode massif et essentiellement masculin. La plupart des réfugiés donc étaient donc des miliciens internés donc au camp d'Agde, 95,51% en juillet donc 1939, dont la population ne cessa de s'accroître, passant respectivement de 7010 en mars à 24 768 en mai, avant de retomber à 16 903 en juillet et à 2600 en septembre. Donc, en marge du camp d'Agde, qui absorbait l'essentiel des effectifs, le port de Sète représente un débouché maritime de toute première importance pour des centaines de réfugiés donc espagnols qui embarquèrent donc dès la fin du mois de janvier 1939 à partir des ports de Valence, de Barcelone ou de la Costa Brava et voulurent gagner la France par mer plutôt que de se risquer à franchir la frontière par la côte ou les différents cols des Pyrénées. Entre février et avril donc 1939, la population réfugiée de Sète ne cessa de grossir, atteignant son chiffre record au printemps donc 1939 avec donc 2451 personnes. En raison de sa bonne infrastructure touristique et balnéaire, la ville disposait de nombreux locaux pour recevoir les réfugiés. Donc je citerai donc un peu un pêle-mêle donc les colonies donc de vacances de la Corniche, le camp des jeunesses laïques républicaines, le centre Héliomarin, le lazaret catholique et protestant, ainsi que l'hôpital hospice. La section de Béziers, dirigée par le capitaine Barriot, englobait les cantons de Béziers, Pézenas, Agde, Capestang, Florensac, Montagnac, Servian, Bédarieux, Rougent, Lurviel et Saint-Gervais. Elle abritait donc 11,76% des réfugiés en mars 39, à savoir 1575 individus, 4,60% en mai, 7,31% donc en juillet 1939 et 35,13% pardon, en septembre. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'année 1939, on s'aperçoit donc que la population réfugiée de la ville de Béziers tend à diminuer au profit des communes rurales qui absorbent peu à peu l'essentiel des républicains espagnols. Au mois de septembre 1939, au moment où sont évacués les miliciens du camp de Marossan, une caserne désaffectée qui faisait à la fois donc office de camp d'internement et d'hôpital temporaire pour les malades et les blessés, le pourcentage des réfugiés donc hébergés dans la région s'élève à plus de 90%. Vous allez me dire à quoi est dû donc ce phénomène. Donc ce phénomène s'explique aisément par l'importance de la colonie espagnole donc sédentaire liée aux réfugiés espagnols par des solidarités de type familial, économique et politique. Donc d'après les chiffres avancés au ministre de l'Intérieur donc par le préfet Antoine Monis, il y avait en 1936, c'est-à-dire qu'au début, donc avant même donc que la guerre donc civile n'éclate, dans le département de l'Hérault, 42 981 Espagnols, dont 8 000 ouvriers agricoles, répartis pour la plupart dans les communes viticoles de l'arrondissement de Béziers, dans ce que l'on a coutume d'appeler le Midi Rouge. Donc, vous voyez donc un chiffre très important, hein, un chiffre donc considérable qui représentait pas loin de 10% de la population du département. Donc dans ces conditions, il n'est pas étonnant que cette population donc d'immigrés soit venue donc aussitôt au secours de ses compatriotes en leur offrant donc gîte, couvert et chaleur humaine. Bien entendu, donc tous ceux qui n'eurent pas la chance de pouvoir bénéficier de cet hébergement donc à domicile atterrirent dans des camps d'internement. Avant l'ouverture du camp d'Agde, les miliciens du département furent transférés, donc je vous l'ai dit, donc au camp de la caserne Marossan, tandis que les réfugiés basques, qui avaient donc exercé des responsabilités politiques au sein de l'ex-gouvernement de Euskadi et leurs familles, furent logés donc à Pézenas dans un local donc loué par la mairie. Donc en fait, il y avait donc plus exactement à Pézenas donc deux locaux qui avaient été donc loués par la mairie, donc un local pour les femmes, donc pour les femmes basques, et un autre local pour les hommes basques. Donc la section de l'Odève, donc dirigée par le lieutenant donc Subil, englobait les cantons de l'Odève, Clermont-l'Hérault, Le Quélard, Gignac et Lunas. Elle abritait donc 8,85% des réfugiés en mars 1939, 2,82% en mai, 4,57% en juillet et 13,50% en septembre. La section hébergeant en priorité des femmes et des enfants dans l'ancienne maison d'arrêt de l'Odève et au camp de Clermont-l'Hérault, au lieu dit Enclos Roanne. Donc ce camp de Clermont-l'Hérault est connu comme sous le nom de Enclos Roanne. Elle accueillit également donc des malades et des blessés dans les établissements de la station thermale de Lamalou-les-Bains et dans les hôpitaux de la région. À partir de l'été 1939, tous les réfugiés de la ville de l'Odève furent transférés au camp de Seyès et Rocozel, donc appelé également donc camp de Roque-Redonde, et donc créé à la fin du mois de juin pour libérer les trois camps de femmes et d'enfants existant alors dans le département de l'Hérault, donc à savoir donc 7 avec le centre Héliomarin, Clermont-l'Hérault avec l'enclos Roanne et l'Audève avec donc cette ancienne maison d'arrêt. Donc ce camp de Seyès, installé dans une usine désaffectée de métallurgie et placé sous la direction du maire, donc monsieur Bénavinck, servit de refuge à quelques vieillards et hommes inaptes, à des enfants et à des femmes dont le mari ou le fils séjournait dans un camp de concentration, avait contracté un engagement sous les drapeaux français, était employé à des travaux agricoles ou industriels, ou avait été réquisitionné dans une compagnie de travailleurs donc étrangers. Donc, comme il me reste peu de temps, donc je vais conclure de façon synthétique. Donc, si vous voulez, donc en guise de conclusion, je dirais que les réfugiés espagnols exilés dans l'Hérault à la suite des événements de Catalogne furent inégalement répartis dans les différentes sections du département. Donc, celle de Sète, où se trouvait donc le camp des miliciens d'Agde, arrive bien entendu largement en tête avec 99,89% donc en mai 1939, suivi de Béziers avec 35,13%, de l'Audève avec 13,50% et de Montpellier avec 10,12% en septembre 1939. Concentré dans un premier temps sur la frange côtière du département, à Agde et Sète principalement, les réfugiés furent ensuite dirigés sur l'arrière-pays, dans la plaine viticole et les zones montagneuses, où des camps d'hébergement furent progressivement aménagés. C'est le cas donc notamment du camp de Seyès et Rocozel. La politique d'accueil donc menée dans l'Hérault par le préfet Antoine Monis reprend donc à quelque chose près, donc reprend mot pour mot, les directives d'humanité et de fermeté prônées par le président du Conseil et le ministre de l'Intérieur. Inspirée d'un idéal républicain de justice et de miséricorde, elle repose sur l'encouragement au rapatriement et à la réémigration, sur l'aide humanitaire apportée aux femmes et aux enfants, ainsi que sur la surveillance étroite des hommes et des miliciens conçu comme une source de danger donc potentiel. Donc avant de terminer, je tenais à vous lire donc ces quelques lignes de la circulaire du ministre de l'Intérieur donc adressée au préfet de l'Hérault le 5 mai 1939. En bref, l'ordre, la discipline dans les centres d'hébergement, la fermeté n'excluant nullement la bienveillance dans votre action quotidienne, doivent, à mesure que le séjour des réfugiés se prolonge, être plus que jamais les caractéristiques de votre intervention et de celle de vos collaborateurs. Je vous remercie.